Votre invité, l'artiste plasticien Antoine Renard, qui expose à la FIAC à Paris et aussi à CET, au Centre Régional d'Art Contemporain d'Occitanie.
Bonjour Antoine Renard.
Bonjour.
Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est ce soir la fin de la FIAC, la Foire Internationale d'Art Contemporain. Elle a lieu chaque année à l'automne à Paris, à l'exception de l'an passé, puisque pour cause de Covid, elle avait été annulée. Et elle rassemble pendant 4 jours des artistes, des galeristes, des collectionneurs, des conservateurs du monde entier. Et pour la première fois, vous y avez participé parce que pour la première fois, vous avez été sélectionné à 37 ans. Vous êtes un jeune artiste, mais vos impressionnantes installations sont d'ores et déjà aussi remarquables que visiblement remarquées. On va évidemment en parler. Mais d'abord, parlons de vous. Vous avez donc 37 ans, je l'ai dit. Vous sortez des Beaux-Arts de Dijon. Vous avez déjà pas mal exposé en Allemagne, en Belgique, en Autriche et bien sûr à Paris. Vous avez aussi décroché des résidences d'artistes et un certain nombre de prix. Est-ce que ça suffit pour faire partie des 160 exposants de cette foire qu'est la FIAC? Comment est-ce que vous avez été choisi, Antoine Renard, et est-ce que vous avez été surpris?
Déjà, c'est Nathalie qui a...
Alors, qui est Nathalie?
Nathalie Obadia, qui est ma galeriste, qui a fait la sélection d'artistes qu'elle présente sur son stand. Voilà, le choix lui revient.
Alors voilà, c'est les galeristes, si je comprends bien, qui font le choix des personnes qui peuvent effectivement aller...
Oui, ce sont les galeries qui postulent à la FIAC.
Qui ont un certain nombre de places peut-être, c'est ça, non?
Je ne sais pas exactement comment ça se déroule. Parce qu'il y a les galeries pérennes, on va dire, quoi, qui sont les habitués de la FIAC. Il y a une partie avec plutôt des jeunes galeries. Voilà, mais les artistes n'interviennent pas dans le processus. Hein. Ce sont les galeries qui postulent, qui ont leur stand et après qui sélectionnent leurs artistes.
Alors du coup, j'ai envie de vous poser l'autre question, c'est comment on rentre dans une galerie? Est-ce que ça prend du temps de réussir à entrer dans une galerie, de se faire repérer par un galeriste? Comment vous avez fait, vous?
Alors moi, ça a été suite à une exposition à laquelle j'ai participé au Palais de Tokyo en 2019.
Donc vous êtes fait repérer en fait, il faut se faire repérer.
Généralement, ça, on peut se faire repérer, on peut se faire aussi conseiller. Il y a plusieurs options. Moi, pour ma part, oui, j'ai été repéré. Nathalie a vu mon travail et voilà, elle m'a contacté en suivant.
Alors vous aviez 35 ans, ça faisait déjà un petit moment que vous étiez artiste plasticien, jusqu'à ce que vous soyez repéré et jusqu'à ce que vous entriez comme ça dans une galerie. On tient comment, en fait, financièrement? Comment ça marche? Ça vous fait sourire?
C'est la
galère.
C'est le grand mystère.
Bon, révélez-nous.
Chacun a ses astuces, on va dire, pour survivre.
Vous avez fait quoi, vous?
Moi, j'ai multiplié premièrement, je suis allé m'installer dans un endroit où les loyers étaient moins chers, donc à Berlin, dans les années 2000, fin 2000. Ce qui m'a permis de pouvoir avoir et un atelier et un petit appartement pour pas cher. Et j'ai été assistant de plusieurs artistes, dont Hege Yang, qui est une artiste coréenne, et Thomas Saraceno. Voilà, j'ai aussi travaillé pour des galeries, j'ai fait tout un tas de petits jobs.
Pour tenir,
ouais.
Et puis il y a donc cette semaine, la FIAC. Quand on fait la FIAC, on se dit que ça y est, on est lancé. C'est ça, on peut dire les choses comme ça ou pas?
J'aimerais
non,
bien.
Non, ça reste compliqué. D'accord.
J'aimerais bien, mais bon, c'est pas grand chose. C'est super d'être à la FIAC. Si ça me permet de rencontrer, que mon travail soit présenté à des collectionneurs qui se mettent à suivre mon travail sur le long terme, c'est génial.
Voilà, le long terme. Alors, l'une de vos œuvres, il faut quand même dire les choses, vient d'être achetée par une immense star américaine, par une immense star hollywoodienne, on n'en dira pas plus parce qu'on n'a pas le droit. Là, à ce moment-là, votre vie, votre statut d'artiste vient de complètement changer. Vous êtes entré dans la cour des grands, maintenant.
J'espère.
Vous espérez seulement, vous n'en êtes pas encore complètement sûr.
On verra.
Alors passons à votre œuvre, votre singularité, Antoine Renard. C'est notamment l'intérêt que vous portez aux odeurs, aux parfums. Vos sculptures sont souvent olfactives, c'est-à-dire qu'il faut s'approcher de vos œuvres et il faut les sentir. Mais l'art, c'est d'abord de la matière. Pourquoi y ajouter une odeur, en fait, artistiquement? Ça change quoi? Expliquez-moi.
Bah, l'odeur, c'est aussi de la matière, en fait. Sauf que c'est une matière qui est perceptible par le nez et pas par les yeux. Donc moi, en tant que sculpteur, ça m'intéresse d'aller explorer la matière jusque dans ses retranchements invisibles, voire inconscients.
Et alors artistiquement, pardonnez-moi, ça, le fait de les parfumer, vos sculptures, c'est quoi? C'est pour les rendre plus vivantes? C'est pour les humaniser?
Dans le cadre de cette œuvre que vous avez vue, qui est un projet qui, autour de la petite danseuse de 14 ans d'Edgar Degas, l'idée de les parfumer, c'est effectivement de leur donner une forme d'identité qu'on appelle une identité olfactive, mais qui joue avec cette idée d'identité olfactive, d'identité personnelle, intime.
Alors c'est pas des parfums hein, que vous leur mettez, ce sont des odeurs de tabac, de jasmin, de coriandre, etc. Vous n'êtes pas le seul, l'art olfactif, il y a toute une nouvelle génération d'artistes qui s'y intéressent, c'est ce que j'ai découvert en tout cas. Vous, Antoine Renard, comment cette idée-là vous est venue?
Alors moi, c'est un cheminement qui a commencé il y a très longtemps à la sortie des Beaux-Arts, parce que j'ai passé mon diplôme en 2008. Ça fait un petit moment déjà, et à la fin de mes études, j'ai décidé de travailler à partir d'expériences que j'avais eues pendant mon adolescence, où j'ai beaucoup fréquenté les milieux de la contre-culture.
C'est quoi la contre-culture, précisément?
Contre-culture, notamment techno, de free party.
Vous avez fumé et consommé certains produits, c'est ça?
J'ai fait pas mal d'expériences qui étaient aussi des expériences de vie sauvage, parce que j'ai beaucoup voyagé en stop. Et le principe des ce qu'on appelle les technomades sont ces tribus comme ça qui se déplaçaient, en tout cas, enfin sûrement que ça existe encore, mais je suis moins le phénomène, mais qui se déplaçaient comme ça en Europe pour faire des rassemblements en forêt, en montagne, dans différents endroits. Et ça m'intéressait énormément, cette manière d'habiter comme ça le paysage.
Le lien avec les odeurs?
Eh ben, disons qu'il y avait tout un tas de plantes dans cette qui étaient très importantes dans ce milieu-là, qui sont des plantes d'enivrement. Et j'ai creusé en fait cette question de l'enivrement et jusqu'à la simplifier ou en extraire une sorte d'essence que je retrouve dans les parfums qui reprennent ces termes-là, mais d'une manière plastique, on va dire.
Là, l'œuvre que vous avez vendue à la FIAC, c'était une œuvre olfactive ou pas?
Oui.
Et les sculptures parfumées attirent particulièrement les collectionneurs, les acheteurs aujourd'hui? Je suis très intrigué.
Je pense que ça questionne, parce que c'est la question de la stabilité de l'œuvre est importante. Mais ça fait partie de mon travail de questionner cette problématique-là.
Merci Antoine Renard. Alors retenez bien son nom, Antoine Renard. Il est régulièrement exposé à la Galerie Obadiah à Paris et il est également exposé en ce moment dans la ville de Sète, au CRAC, au Centre Régional d'Art Contemporain, jusqu'au 6 février prochain. Belle fin de FIAC et belle journée.
Merci beaucoup.